Charles Lane.
Hey, salut mes botches de clope, moutarde et miel, comment vous allez? On est là, Hypoke Podcast Live, Fred Duprat et la parfaite ménagère, Michael Dufort. Ça, ah, ça va les boys?
Ça va bien toi, Fébé?
Ben oui, ça va, non, je dirais que ça va très mal à cause de la performance des Chiefs, mais à part de ça, ça va super bien là. Faut pas se laisser affecter par ces choses-là.
Puis toi, Mick, ouais, t'es content
d'être
ça? C'est
bon, les Chiefs perdent dans Survivor, je pense qu'il y a du monde qui les ont pris. Fait que je me rapproche d'une victoire de Survivor, je pense.
Moi, je connais pas pantoute ça, le football, zéro pinball. Ben, tu sais, je connais un peu les règles. J'avais demandé à Mick qui m'explique à un moment donné. Mais j'ai pas pris le temps de le faire encore.
Fred, il me dit, Mick, tu peux-tu me montrer comment ça marche le foot? Je fais, oh, ouais, mets 100 piastres, c'est Raiders.
Puis, si, j'ai perdu 100 piastres.
Tabarnak.
En fait, moi... c'est la game des Raiders qui menait comme par 7 points. Dernier jeu du match, l'autre équipe attaille la game, ça fait un tie, puis Raiders s'en va en overtime, première et les buts, ils décident de faire un fucking kick, puis ils ont gagné par 3, on avait mis Raiders par plus que 3.
C'est ça.
Moi, je pensais que Mick, c'est un grand Manitou.
Ouais.
Tabernacle.
Mix, un grand Manitou. Non, moi, j'aime pas ça, les par plus que 3 pis tout. Je sais, des fois, c'est payant, mais gros, c'est des plats pour que tu te fasses enculer, genre, pis qu'ils ouais. Gagnent par 4, là, littéralement, tu sais. En tout cas.
Moi, je te confirme, je me suis fait enculer.
Ouais, tu t'es fait enculer, ben, Ren. Mais ça arrive, le gros. C'est des choses qui arrivent dans la vie, pas trop souvent, mais des fois. Mais on n'est pas là pour parler de ça, on est là pour parler de vos fêtes. Vous allez vous battre au samouraï. Mix, ça va être le main event. Fred, tu vas être. Pas longtemps après. T'es-tu le dernier combat avant le main event?
Ouais, je pense que.
De pas de même, des gros combats sur la carte. C'est votre retour. Comment vous sentez? Comment Fred, dans commençant, parce que nous, on t'a parlé, vous l'avez pas bien long, là. Fred, comment tu te sens? Là? Il me semble que ça fait
ouais, 300 ans. Moi, écoute, je me sens en crise de shape. Tu veux dire, je suis vraiment en shape. Ça fait juste vraiment longtemps que j'ai pas performé devant du monde. Là. C'est ça qui me dérange, mais je sais que. Ouais, je suis prêt. Tu sais, je me sens à un autre niveau. Là. Tu sais, je veux dire, je le vois, je suis pas loin. Tu sais. Personnellement, tu sais, tout le monde avec qui je parle, des choses de même, tu sais, je le sens. Là, tu sais, que je... Puis même les hauts niveaux, je le vois que je suis supposé être là. Tu sais. Je suis pas loin. Je le vois que je suis pas loin en arrière. Là, il faut juste que je le prouve. Tu sais. C'est ça qui me fait un peu. Tu sais, c'est juste ça. Tu sais, quand je sais que j'ai les skills, il faut juste le mettre en action. Là.
Ah, tout le monde s'entraîne avec toi, me dit que t'es fatiguant, là, fait que c'est bon ça. Mick, t'as-tu de la misère avec ton sel, le gros?
Tu vas
trouver un setup pour qu'il tienne un moment donné. Mais entre-temps, parle-moi de ton niveau d'excitation. Man, t'as l'air d'un gars fucking excité avec ta casquette des Jags. Comment ça se passe?
Ça s'en va, là. Mais oui, non, je suis fucking excité pour vrai. Premier main event, c'est le combat le plus important de ma carrière et de loin. Il va avoir une ceinture en jeu. Fucking main event, comme je te dis. Je me bats contre un vétéran de l'UFC. Un troisième gaucher en 4 combats. Je m'entraîne avec un des meilleurs gauchers au Canada, au monde, possiblement, Olivier Aubin-Mercier. Écoute, sérieusement, je suis hype. Là. Je suis vraiment hype. Puis je sais que je cogne à la porte. Puis, ça me prend juste un quick finish, un gros finish contre Prepolek. Puis, pas mal sûr que ça va être job done. Puis, je devrais avoir un call.
Ah, moi aussi. Moi, je te confirme. Moi, j'ai vu Mick. Puis, lui aussi, il est là. Il est rendu là aussi. Je le vois, man. Puis, je le vois grinder. Puis, je suis Chris. Lui, il n'est pas supposé être encore là. Là.
Ouais, ben, même Fred, si t'sais, mon coach, puis c'est que Mick, il donne les cours là, de MMA le mardi. Il dit, ouais. Il a l'air d'avoir changé, man. Tu sais, Chris Mick dans le temps, c'est pas rare qu'après un combat, on le perdait pendant une couple de semaines, voire même un mois, puis après, il revenait au gym.
Chris, je pensais que c'était juste à cause que c'était le même aussi. C'est une légende. T'sais, moi, Chris, quand, après son combat à Jujo, il disparaît un mois. Il disparaît.
C'est ça qui arrive, mais il faut bien qu'un gars disparaisse des fois. Mais tu sais que Fred, il disait Chris Mick, il a l'air différent même d'avant, là, genre de la manière, tu sais, il a l'air de s'entraîner bien plus fort, de prendre ça, genre,
c'est
sérieux.
C'est la manière que je me coiffe.
Ou de que tu te coiffes.
Ouais.
Ouais, c'est tout dans les cheveux, genre.
Tout dans les cheveux.
Le power, c'est dans les cheveux. Tu vas-tu, genre, te faire une fou coiffe comme ça, si t'arrives dans l'UFC, tu vas arriver avec un mollet, tout quoi de fucking original, genre.
J'ai déjà essayé de me faire. Mick Girard m'avait offert une bonne somme d'argent pour que je me fasse une mollette, puis que j'aille me battre avec une mollette, mais moi, j'ai le cuir chevelu sensible. Donc, je n'ai pas été capable de la faire pousser.
Je vois. Fait que Fred, c'est qui ça, Patrick Connors?
Ah, ben moi, la seule affaire que je sais, c'est qu'il est 3-3, puis il est 6 pieds 1, puis il a de l'air grand tabarnak. Mais moi, je m'en fous, tu sais. Ouais, peu importe, me le défoncer. Que ce soit P.O. Buffard ou Patrick Connors, je m'en fous, tu sais.
T'appelles le lézard, t'aimes-tu son surnom?
Oh, oui.
Son surnom est fou, là.
Le lézard.
Le lézard Patrick Connors.
Aïe, aïe.
Et tu penses qu'il peut faire quoi, lui? Parce que tu sais que sa fiche, il y a deux victoires par KO, TKO. Trois défaites par soumission. Tu penses qu'il veut striker avec toi?
Je pense qu'il va essayer de striker, mais tu sais... J'ai deux modes, moi. T'sais. C'est ça l'affaire. Mick, ouais, il peut plus t'en parler. J'ai deux modes. J'ai un mode, ça va real quick, je te choke real quick. Ou j'ai un mode, search and destroy, puis je m'en vais là pour te fracasser.
T'as un mode, c'est le kill. Fred, là, une affaire dans la vie qu'il fait, là, que ce soit en entraînement, en combat, Fred vise tout le temps le meurtre. Et assurément que ça va être... Ça, c'est une affaire. Ça, c'est... Pour vrai, là, mon point de vue à moi, c'est que Fred, c'est la carte cachée de cet événement-là. Fred, ça fait trop longtemps qu'on ne l'a pas vu en action, puis le monde sont contents d'avoir du MMA au Québec, puis Fred va être un des combats avant la demi-finale et la finale qui sont super attendus. Ben Fred, c'est un combat un peu plus pas caché, mais ça va faire boum, puis ça va mettre du piquant dans la soirée. Là. Ça va être un gros combat.
Ça va être une grosse minute, quoi.
On peut compter ça en secondes, moi, je t'ai dit.
Fred, ouais, c'est ça, c'est comme le bet, genre, c'est qui le premier à essayer une guillotine sur l'autre? Mais ça, je pense
sur
que
qui? C'est... Sur l'autre, c'est... Dans quel sens?
Genre, est-ce que toi, t'essayes une guillotine sur Connors avant que Dufort essaye une guillotine sur Prepolek?
Moi, je pense que je passe ma guillotine avant Fred parce que Fred, il est grand, le gars. Fait que Fred va avoir de la misère à faire.
Ouais, mais attends, quand je vais mettre ma... Mick, va pas trop vite.
Hey, je vous le dis, les gars, bêtez sur moi. C'est moi le plus rapide.
Oh, shit. Moi, honnêtement, je veux...
C'est quoi ton finish le plus rapide avec combat amateur?
Oh, lâche-moi les combats amateurs.
Vas-y, peu importe le combat. OK, vas-y, c'est tous tes combats. C'est quoi ton combat le plus rapide?
Je pense que j'ai pris 14 secondes. 13 secondes un combat amateur, si je ne me trompe pas.
J'ai 13 secondes aussi.
Wow. Ben, chez les pros, Ben, du pro, t'as pas dépassé 51 secondes là encore. Là.
Ah, j'ai pas un fight à date. qui a passé minutes.
Moi, honnêtement, gros, s'il y avait un bet là-dessus, je pense qu'il faudrait mettre du pro favori.
Ben non!
Je pense que ouais, man, parce que tu sais, Karl Prepolek, il va essayer de garder sa distance, nanana, faire ses affaires au début du combat. Je pense pas qu'il va.
Ah, mais faut que tu comprennes une affaire. Karl Prepolek n'est pas là pour établir un game plan. Karl Prepolek va subir des affaires puis il va falloir qu'il réagisse. Il n'y a rien d'établi, Karl Prepolek, là. C'est moi le boss dans le combat. C'est moi qui dicte les affaires.
Ouais, si tu le dis, mais c'est parce que j'ai juste vraiment l'impression que Fred et l'autre vont juste se rencontrer dans le milieu, puis dans les genre 20 premières secondes, il va y avoir un échange qui va mener à genre quelque chose qui est souvent un finish dans le cas de Fred Dupras. Mais bref.
Je sais pas, Fred, il pogne quand même un gars expérimenté qui est long, non?
Ouais, il est long, il est grand, mais man, le gars et tout, là, si tu checkes ses affaires, là, c'est. Tu sais, 2 minutes 45 du premier round, 1 minute 29 du premier round. Oui, il y a des combats qui sont allés plus loin que le premier round, genre contre Max Poulin. Son dernier combat, 5e round, somehow, je ne sais pas trop où, ni quand, ni comment. Se battait contre un gars qui était 4-0. Mais lui, avec, il a l'air de comme avoir des early finish à sa fiche. Puis c'est un gars que, oui, il est grand, mais des fois, il fait juste comme rentrer et dire « fuck that, est-ce qu'on se bat ». J'ai l'impression que Fred, souvent, c'est dans le premier échange du combat qui arrive de quoi, puis c'est comme fini. Là.
Ouais. Moi, je pense que tu vas pour le KO. Moi, mon bet, c'est Fred par KO.
Fred, first round knockout.
Ouais.
Ben, tu sais, on dit ça, mais moi, parce que c'est l'affaire, c'est que je connais Mick aussi. Fait que ça peut aller soit real quick aussi pour Mick, ou tu sais, c'est genre. On a un style quand même similaire côté jiu-jitsu. Tu veux dire, c'est celui, si on est capable de mettre nos mains sur le gars. Déjà là, genre, je sais que ça va être une question de premier qui tire le gun, tu sais.
Ouais, c'est ça. J'ai l'impression. Mais en plus, Mick, Carl, vous allez avoir plus de temps pour faire vos niaiseries, là, veux, veux pas. Fait que des fois, des combats de même.
Mais c'est pour mais ça que mais tu sais, c'est comme si. Tu sais, moi, c'est parce que là, ça, on y va avec. C'est peut-être le manque d'expérience à l'autre gars ou à moi aussi qui rend ça que ça peut aller plus vite. Tandis qu'eux autres sont plus avancés, sont plus expérimentés, ils vont peut-être prendre plus leur temps.
Ouais, peut-être, je sais pas, man. Je pense que juste comme Mixi, t'es un putain de finisher, le gros. Tu sais, comme mettons Brian Ortega. Il a beaucoup développé ses skills partout, mais ça reste que Brian Ortega, c'est un salesti de finisher. À la seconde qu'il ramène toi, il peut te choker, il peut. Tu sais, c'est plus ça ton style. Mikitu, là. Mikitu, vraiment. Mais. Crac, je sais pas, man. C'est un bon bet, esti, à voir. Mais je préfère un poll sur la page, voir le monde, nous autres, ils pensent quoi. Qui le premier à essayer une guillotine sur son adversaire, on dit propre du fort. Mais bref, Dufort, t'as pensé quoi de la run de Karl Prepolek dans l'UFC? Là, ses deux derniers combats, ça fait longtemps, mais c'est les deux exemples les plus récents qu'on a de sa game. Fait,
ça fait longtemps, oui, mais tu sais, un peu comme tout le monde l'a souffert pendant la pandémie, il n'a pas pu se battre. Je trouve ça bizarre un peu qu'il ait été coupé de l'UFC ou je sais pas, il a pris un short notice fight contre Nordin Taleb. Habituellement, quelqu'un qui rend un service à l'UFC comme ça, il se fait donner une plus longue chance, si on veut. L'élastique est un peu plus élastique. Mais là, j'ai trouvé ça bizarre que deux combats, puis c'était un bon combat contre Hubbard ou de quoi du genre. Son deuxième combat, c'était un bon combat. Non, j'ai trouvé ça bizarre. Mais écoute, comme je te dis, j'ai trouvé ça bizarre. Peut-être qu'il y a de quoi qu'on ne sait pas. Il a peut-être testé positif pour quelque chose ou il y a peut-être une maladie un peu que l'UFC veut se dissocier de ça ou whatever. J'ai aucune idée. Mais j'ai trouvé ça bizarre qu'il ait été coupé parce qu'il n'y a pas des mauvais combats à l'UFC. Puis comme je te dis encore là, un short notice, habituellement, t'as rendu un service à l'UFC. Puis l'UFC, habituellement, est reconnaissant de ça.
C'est vrai que c'est weird. Moi, le mot que j'aurais pour décrire sa run dans l'UFC, c'est genre frustrante. C'est genre contre Nordine, il a essayé de faire ses affaires. Ça allait pas marcher parce que c'est comme deux strikers. T'en as un qui est plus petit et qui est plus genre, mettons, volume, assez d'être actif, tout faire. Puis t'as Nordine qui est juste gros et il fait mal, man, quand il te frappe. Fait que ça, je pense pas que ça allait jamais être un bon match-up pour lui. Après, comme tu dis, t'as le combat contre Hubbard qui est un bon combat. Il fait des belles affaires là-dedans, mais il se fait comme tellement takedown qu'il finit par pas gagner. Mais tu vois quand même, t'es là, oh, il aurait pu faire de quoi avec ce combat-là quand même.
Ben, il gagne le premier round, il gazote un peu pour le 2 puis le 3, puis c'est le même qui perd à cause des takedowns. Justement, ça, c'est de quoi qui me fait peur. Tu sais, un gars que ça fait 2 ans qu'il s'est pas battu, s'il a été intelligent et il est resté dans le sport, il va avoir travaillé ses lacunes en tabarnak. Puis tu le vois qu'il n'y a aucune défense de lutte. Là. Ce gars-là, là, tu le regardes et tu es capable de dire de pincer tout de suite sa faiblesse. Fait que tu sais, je me dis qu'il doit avoir travaillé sa lutte. Fait que je me prépare au meilleur lutteur qui peut exister. Là. Je me prépare vraiment au meilleur. Mais regarde, s'il y a la même lutte qu'il y avait dans l'UFC, ça sera pas long que je vais le mettre sur le dos et je vais faire ce que je veux. Là. Comme je disais à Fred l'autre fois, là. There's no way ce gars-là est un meilleur du que moi. there's no way ce gars-là me knock out. Puis l'expérience de 25 minutes, je l'ai, puis lui, il l'a pas. Fait que, tu sais, ça et tout, c'est encore dans de mon bord. Puis j'ai trop travaillé les dernières années pour me faire outclasser pendant 25 minutes. Fait que, man, le combat m'appartient. Là. C'est trop important, je le veux trop. J'ai trop le will, le désir de gagner pour pas gagner, justement.
Ouais, non, définitivement, comme tu dis, puis...
Mais je suis d'accord avec lui. Il a raison que je pense pas que Triple H peut choquer Mick, peut knocker Mick. Je comprends. Et puis, man, s'il y a quelqu'un que je connais qui est très, très dur à finir, puis il est rarement vu se faire choquer, c'est ça qui est fou. Tu sais, ouais, si le gars n'est pas A1, là, il finira pas Mick jamais. Là.
Non, c'est ça. Je pense que pour genre la personne moyenne qui veut comprendre le match-up, c'est clairement une dynamique le striker contre grappler, dans le sens que
ouais.
Il, au sol cas, il a rien pour Mick, ça, je suis d'accord pour ça. C'est l'aspect debout, moi, qui m'intrigue, bien honnêtement, parce que Prepolek, moi je trouve c'est quand même un bon striker, mais c'est pas un striker exceptionnel. Il fait des belles affaires, mais il laisse beaucoup d'ouverture et tout. Puis je le sais que Mick il a beaucoup travaillé dans son striking. Puis c'est juste son combat.
Moi je pense que c'est ça l'affaire qui le gars il comprendra pas, c'est qu'il va être surpris. T'sais, l'effet surprise est là. T'sais, quelqu'un qui sous-estime quelqu'un, mettons, va se faire pincer. Et Mick gagne fort. Tu sais, le gars, il a un petit doute, il essaye, puis tu dis, ah, Chris, bam! Ça va être. Puis moi, personnellement, en connaissant Mick, si tu connais pas bien Michael, tu sais, ses coups, ils vont entrer. Et moi, je le dis, il va savoir entrer.
Ces derniers, c'était-tu contre Moncayo ou c'est un autre après? Je m'en rappelle pas, mais il y a eu tes combats que tu devrais faire mal à un gars avec ta main droite. Là.
C'est comme
la. C'est la première fois de ma vie, j'étais genre, Chris Mick, c'est rendu qu'il fait mal à du monde. Puis même après contre Ronson, c'est comme, ce combat-là, je trouve que c'est un bon. Tu peux regarder le combat contre Ronson puis te faire une bonne idée de ce qui peut arriver contre Prepolek parce que Mick, il est rentré dans ce combat-là avec beaucoup moins d'expérience debout. Puis c'est juste devenu une calisse de guerre puis il s'est vraiment bien défendu debout contre Jesse Ronson, qui est un tabarnak de striker qui finit des gens. Prepolek. Pas un grand finisher, tu vas se le dire, là. Non. Pas un grand. Il y a des TKO au sol, c'était là. Il y a peut-être un rear naked choke ou deux, une soumission ou deux, tu sais, des affaires de même, mais généralement, c'est le gars que tu regardes. Et là, lui, il fait bien tout, tu sais, comme. Il est capable de se défendre au sol, même s'il n'y a pas une grosse lutte. Il est capable de se battre debout, mais rarement, tu le vois finir un gars. Fait man, c'est un bon match-up pour Mick, là. C'est juste ça, c'est à dire, je pense.
Non, ouais, moi, tout. Moi, c'est le même que je le vois. Tout est aligné, mon gars. Je me suis entraîné dans la dernière année tellement avec Olivier pour le préparer à ses camps d'entraînement que j'ai travaillé avec un gaucher pratiquement 24 ans. Manière, façon de parler, mais tu sais, j'ai été emprisonné pendant 2 semaines avec Oli là, à tous les jours, m'entraîner avec 2 fois par jour. J'ai pogné un de mes derniers combats, Jesse Ronson. Avant ça, j'avais eu un autre gaucher. J'ai eu mon dernier combat, c'est un gaucher. Jesse Ronson, c'est un gaucher. Là, j'affronte un autre gaucher. Tu sais, je suis conditionné à des gauchers en ce moment. Puis on a Oli dans l'équipe qui est débile. Le gars, tu sais, même Jesse Ronson m'a écrit personnellement. Puis il m'a dit, ça va être un bon combat. Tu sais, ce gars-là n'a pas le striking à Ronson. Il n'a pas la lutte ni le jiu à Oli. Fait qu'il dit, man.
Il n'a même pas la lutte à Ronson.
Non, non, c'est... Ben, Ronson a un tabarnak de
lui. Ronson est vraiment sous-estimé au sol, man. Il est bon, ce style-là. Il est bon, Jesse Ronson.
Au sol, je sais pas, mais son wrestling defense...
Son wrestling est bon,
man. Incroyable. Oh, c'est un des gars les plus lourds, les plus forts que j'ai affronté de ma vie.
Mais Big, même dans l'UFC, là, quand il s'est battu contre Dolby, il l'a droppé, il a sauté au coup de suite, il l'a choqué. Tu vois vraiment que dans les derniers temps, il s'est concentré sur son grappling. Je pense que son combat au sol est rendu assez bon, là, Jesse Ronson en général. Mais bref, dernière affaire, je vais te demander par rapport au match-up, là, mon mix, c'est est-ce que tu vois justement ton combat à Tempa comme un avantage dans ce combat-là? Parce que toi, autant pas long que ça aura duré, tu as la chance d'un peu te remettre les pieds dans l'action, puis tu n'arriveras pas genre rouillé d'un 2-3 ans. Contrairement à lui, que ça fait 13 ans qu'il ne s'est pas battu, ce pauvre-là, puis il y a eu la pandémie et tout. Toi, tu as réussi à te remettre les deux pieds dans la cage brièvement avant ça.
Je pense que je te dirais que ça peut être vu à deux tranchants un peu. Soit tu le vois de la manière que justement j'ai eu le temps de me tremper un peu avant de prendre le bain, tu sais, avant de sauter, que deux combats rapprochés, des fois, c'est difficile chez l'athlète. En ce moment, je sens aucun. Je sens pas de fatigue, tu sais, à ce niveau-là, c'est bon. Mais c'est quelque chose. Deux camps d'entraînement collés, c'est quelque chose. Tu sais, ça rentre dans le corps, mais. Tu sais, justement, tu n'as pas le temps de prendre un break. Fait que tu es monté à ce niveau-là. Tu as pris, mettons, une semaine de break, tu es redroppé, mais là, tu es encore en train de monter parce que, fuck, tu n'es pas sorti du bain, là. Tu es encore dedans, là. Fait que, tu sais, ça peut être prêt à deux tranchants. Soit la fatigue va venir, mais je ne penserais pas parce que, comme j'arrête pas de dire, comme je dis souvent, j'ai tellement le désir de vaincre qu'il n'y a aucune chance que comme ça m'overwhelme un peu tout ça. Fait que non, je pense vraiment que c'est un avantage. Puis je vais le finir, ce gars-là. Je le garantis. Même feeling que j'avais quand j'ai affronté l'autre, là, mon dernier combat. Je savais que j'allais gagner. Dans mon walk-in, je savais que j'allais gagner. Ma seule question, c'était comment. Je savais que j'allais gagner. Puis je suis dans le même mind game en ce moment de je sais que je vais gagner. Je sais que ce combat-là m'appartient. Je vais être trop imposant pour lui. Je vais être trop fort. Je vais être trop tout. C'est mon combat. C'est ma chance. C'est mon tremplin. So, en ce moment, ma carrière est en jeu. Là. C'est vraiment... Tout est on the line. Là. Je veux vraiment prendre le step là.
Yep. Maintenant, Duprat, je voulais savoir, il y a du monde qui te trash talk dans les commentaires. Est-ce que tu voulais répondre à tes détracteurs, man?
C'est quoi les
Jeremy Rubin, il rit de tes oreilles en chou-fleur. Il se demande comment tu fais pour fitter des earphones là-dedans. Puis on a la slice en personne qui dit qu'il paraît que c'est ta blonde qui a coupé tes cheveux.
Ouais, si.
Mais non, mais Fred, t'as-tu déjà vu un combat de Patrick Connors où tu t'en calisses à ce point-là, genre?
Non, j'ai vu. Mais t'es pas. C'est un fight, là, t'sais.
Il n'y a pas grand-chose que tu as cru noter de...
Mais non, mais tu sais, moi, les seuls fights que j'ai trouvé de lui, j'ai juste vu toutes les fois, il perd.
C'est sûr que des fois, c'est le fun de voir un combat qui gagne pour te donner...
Ben oui, mais j'aimerais ça, bien. Là. Mais tu sais, c'est les derniers combats que j'ai vus. Même les combats amateurs que j'ai vus, il perd. Je veux bien, là, tu sais, je vois que, tu sais, il est à l'aise debout, OK? Et je le vois perdre.
Ouais. Ouais.
Fait que tu sais, je le vois dans ma face exactement comment il perd. Là. Je sais comment le battre. T'sais, je vois c'est quoi sa lacune. Ça, vous allez le voir combat.
Yep. Hey, j'ai l'impression aussi que. Genre, j'ai pas grand affaire à te demander. On dirait juste parce que ça fait tellement longtemps. Puis...
Ah, je sais.
Je le sais comment, genre, tu sais, gros, pendant la pandémie, t'étais le gars avec des matelas chez vous, man, à t'entraîner tout seul comme un esti malade à faire venir du monde, genre, on the low pis tout. Fait que, moi, tout, j'ai juste hâte que le monde ait la chance de voir.
Mais tu sais, moi, l'affaire que je veux faire pour vrai, pis ça, c'est. Je veux monter. Tu sais, je veux prouver ma crédibilité. Tu sais, le monde qui me connaît, c'est tout les... Tu sais, le monde dans le gym, ils savent qui je suis, puis tu sais, ils savent que je suis pas un jambon, tu sais. Je veux montrer que, tu sais, je veux pas que le monde ait fait à mon dernier combat pour ma reconnaissance, comment je veux dire. Moi, je travaille fort tout le temps. Je grind tellement fort, tu sais, je comprends pas que ça m'est arrivé, le dernier combat, mais ça l'arrive, puis ça, c'est de l'expérience. Et moi, j'ai appris de ça, puis j'ai pris 3 ans pour m'améliorer de ça. Fait que, tu sais, si lui... Tu sais, je te dis, s'il pense que j'ai juste arrêté, il s'est fait knocker, puis la titre, il est pas revenu de ça. Oh, crois-moi, j'y pense encore aujourd'hui que je me suis fait knocker, puis je pratique. Je m'entraîne encore pour ça, là, tu sais. Lui, je sais pas s'il a travaillé ses lacunes en 4 mois, Big, mais moi.
Il y a une chose que je peux dire sur Fred, c'est qu'il y a personne qui peut outwork ce gars-là. Le gars, il voit son adversaire dans sa soupe. Il fait du vidéotape. Il pratique. Il est chez eux, là. S'il est assis trop longtemps sur le divan, j'ai l'impression qu'il se dit « Aïe, qu'est-ce que je fais, man? Je suis en train de gâcher ma vie. » Il s'en va dans le gym et il commence à péter ses tailleux. Pow, 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 pow. Le gars, il est passionné, il en mange. Fait...
Mais tu sais, comme je dis, puis tu sais, mix, parce qu'il me côtoie beaucoup. Tu sais, c'est vrai, je suis un grinder, j'aime ça d'en manger, mais tu sais, c'est que le monde qui me connaît, qui me contacte, qui me voit à l'entraînement, ils savent où est-ce que je suis rendu. Tu sais, ils m'ont vu, je suis pas le même il y a 3 ans, puis tu sais, je suis vraiment un autre gars, surtout aussi à 145, tu sais, je suis un autre style aussi, tu sais, je suis plus pantoute le même de celui il y a 3 ans, tu sais, vraiment, mais vraiment pas, là.
Genre la moitié de Fred Dupras qui arrive à peser, genre, blanc comme une pinte de lait.
Non, mais je l'ai dit, à 145 non plus, j'arrive là dans une sale shape, je te dis, là, c'est pas une shape, tu vas faire, oh man, il a de l'air d'être mince pour 145, tu vas faire shit. OK, ce gars-là, il devait peut-être être à 145 depuis tout le temps, tu sais.
Ben, ça, il n'y avait aucun doute, là, le gros, là, on te l'aurait tout dit, non. Man, mais... Chris, that's it. J'ai hâte pour toi, man, parce que tu sais, ça doit être frustrant de t'entraîner pendant 3 ans, de ne pas pouvoir montrer aucun résultat. Puis, tu sais, ton dernier résultat, oui, c'est le TKO que personne n'a vu sauf ceux qui étaient là, mais c'est quand même un asti de résultat de merde, là, on en convient. Ouais. Fait que c'est sûr que c'est frustrant, man, pour. Ben, c'est moi, je pense encore même affaire de toi, là. T'es un des gars qui a le plus de potentiel au Canada, toute la patente. C'est juste, c'est plate de ne pas pouvoir le montrer pendant autant de temps, mais là, gros. 19 novembre, mais si, c'est ta chance, les billets sont en vente. Tout. Dernière affaire par rapport aux fêtes, est-ce que vous avez écouté la carte de boxe de Rivas que Alexis Barrière et tout se battaient dessus? Est-ce que vous avez vu, non? Toi, Mick, as-tu vu un peu?
Je l'ai pas vu, je voulais y assister, mais je travaillais, puis c'était sold out là, quand j'ai vraiment voulu y aller. Non, mais j'ai entendu dire qu'Alexis avait gagné. Il y a eu un bon, pour vrai, Alexis, je suis content qu'il ait rencontré un bon adversaire, ça fait du bien ça. Tu sais, puis tu le vois dans l'adversité, Alexis, être capable de step up et d'aller gagner ça. Fuck yeah, Saint-Jean represent, yes, je suis content pour lui en tabarouette parce que ça et tout, c'en est un qui travaille fort. Puis un heavyweight avec cette vitesse-là, avec ses head moves, il n'y en a pas beaucoup d'heavyweight à la Alexis, là, fait man, il peut aller loin, puis il va aller loin, ça, je suis convaincu. Il a un bon entourage, il a une belle équipe, tout est aligné pour qu'Alexis se rende loin. Puis, comme je viens de dire, des heavyweights comme Alexis, ça ne court pas les rues, paraît bien, il y a un good looking en plus, facile à
pouvoir voir. Il y a un tight, man. Oh, ouais.
Il va aller loin. Mon call, c'est qu'Alexis est là en tabarnak, puis j'ai hâte de suivre sa carrière encore plus loin.
Ah, moi tout, je suis bien positif pour lui. Mais Joe, il était là, justement. Joe, dis-nous dans les commentaires, c'était comment la salle? Moi, c'est ça que je veux savoir. Il y avait, ben, justement, du monde que je connais avec Alexis qui était là. Tout le monde qui était là m'ont dit que la salle était cool. Parce que la salle, c'était basically à l'Olympia. C'est pour ça que je vous en parle. C'était à la même crise de place qu'on va être. Moi, j'ai vu quelques vidéos sur Internet. Ça avait l'air nice, tu sais, de la manière que c'était setup et tout, le gros, mais... Mais Joe, si dis-nous comment c'était la salle pis tout. Moi, c'est vraiment ça qui m'intrigue parce
que. Ouais, Joe, si tu viens. Je viens de voir le. Moi, je vois pas les commentaires.
Gros, je les affiche dans le bus.
Ah là, je vois là.
C'est moi qui. Il faut que je les affiche pour que vous les voyez, mais moi, je les vois toutes. Je les vois toute la gang. Mais c'est ça, je laisse parce que Chris Daniel, il me disait, man, les fighters, ça vient rechercher des billets. Puis gros, il sait même pas s'il va être capable d'en redonner à tout le monde tellement que ça se vend vite, là. Fait que d'après moi, il va y avoir une estime d'atmosphère dans cette place-là. Ça va être caf. En plus, il y a un combat qui n'est pas annoncé. Je ne veux pas vous l'annoncer, mais si vous allez sur Tapologie, il est là, là. Mais ça, c'est un combat qui n'est pas annoncé sur la carte. Puis, en tout cas, cette personne-là, ça se peut qu'elle ne soit même pas capable de vendre de billets. Elle va trouver ça rough parce que très gros vendeur de billets, là, quand je pense aux gros vendeurs de billets au Québec, Morgan, Nick, Jourdain Barriot, il y en a un autre. Il vient peut-être de Sherbrooke. Fait que, en tout cas, ceci étant dit, ça va être un esti d'event, gros crise de crowd, je sais comment. Hype, vous êtes allé. Détomé que tu as réussi à vivre le crowd un peu. C'était pas tes amis vraiment ce soir-là. Je sais comment. Hype, vous êtes de. Chris, que la salle, elle va être pleine, mec. Ça s'annonce pour être genre juste malade, là. Genre full capacité, gros crise de crowd local qui vont crier pour vous autres. Comment hype vous êtes là?
Moi, écoute, sérieusement. jusqu'au combat, je l'entends même pas le monde, tu sais. J'ai une vision tunnel, là. Faut juste que je finisse le fight, pis that's it. Puis après ça, quand je co-down, là, j'entends, pis là, c'est là qu'on dirait, tu sais, c'est un, genre, c'est un feeling qui est pas explicable. Ouais, c'est vraiment un si bon feeling.
Moi, personnellement, je la vis en tabarnak, la crowd. Avec ma toune d'entrée, je prends vraiment le temps de vivre la crowd, vivre ma toune d'entrée. En fait, je vis ma crowd avec ma toune. Puis, j'ai vraiment hâte de... Tu sais, ça a été le fun de se faire bouer. Là. J'ai vraiment aimé ça, me faire bouer. J'ai trouvé ça cool. Mais se faire applaudir, je pense que c'est encore plus nice. Puis là, je me bats devant mon monde. Comme tu viens de dire, Faber, la vente de billets a été très bonne.
Mais tu sais, on dit été, puis c'est même pas fini, là, tu sais, il reste encore un mois.
Le monde va venir pour nous encourager, puis pour crier très, très fort. Je pense que le Québec avait besoin de ça un peu, de... Tu sais, tout le monde qui est enfermé, il y a du monde qui l'ont trouvé rough, la pandémie, puis ça, c'est justement le petit lousse qui va faire du bien à plusieurs personnes, puis je suis content qu'on vive ça. Puis je pense que ça va paraître dans les vagues d'amour qu'il va y avoir. Puis pour vrai, Fred, je te souhaite d'être capable de le vivre. C'est le fun de vivre avec la foule, vivre tout ça. C'est vraiment de quoi d'inexplicable. Ah, man. Moi, j'ai hâte. Comme je te dis, man, le monde va être là pour crier, à s'époumoner. Ça va être le fun. Ouais, j'appréhende effectivement tout ça.
Yep. Puis Joe, il dit que la salle est nice. C'est vraiment la malade, l'ambiance. C'est un peu comme à Tohu. Fait que Chris, man, c'est comme à Tohu. That's it, man. La Tohu, c'était malade. Puis... moi, j'étais allé au BTC, man. J'étais allé au BTC, puis il y avait un crowd. Il y avait un dude, OK, il s'appelait Mustapha, man. C'est un putain de fou, Mustapha. Je l'aime bien gros. C'est un de mes nouveaux fighters préférés. Mais Mustapha, je sais pas, il avait vendu combien de billets, mais il en avait vendu en tabarnak. Puis...
Mustapha, c'est pas le gars de Montréal?
Non, c'est un gars d'Hamilton. Pas Mustapha, le style de huge lutteur iranien du Tristar, là. Lui, je pense qu'il a signé avec Samouraï, justement. Il va sûrement se battre à Samouraï. Si Daniel réussit seulement à y trouver quelqu'un un moment donné, peut-être, là, mais... Je pense pas que ça va faire la file de se battre contre lui, mais bref.
Ben, il y a pas... Moi, je connais.
Ouais. Non, ouais, c'est pour faire un call de Martin Trump, toi, là ou de quoi de même.
Qui?
Non, Martin Trump. Je pense que Martin Trump, il l'avait callé sur un de ses réseaux sociaux. C'était assez hilarant. Il avait callé.
Il s'est supposé se battre contre lui, amateur, puis finalement, quand il a découvert c'était qui, il a fait comme...
Il a pas fait du kickboxing contre Jean Javad. Puis là, après, il a callé Mustapha, genre. En tout cas, bref, on s'en calisse. Tout ça pour dire, Mustapha, en Ontario, il avait vendu des billets en tabarnak, mon gars. Puis quand il est rentré, là, la foule, là, était crazy. Puis, tu sais, il y a toutes les règles de distanciation, les masques, nanana. Mais genre, gros, il a tout cassé, man. Le monde, ça gueulait comme des malades. C'était complètement épique. Le monde, ça se tenait des high-fives. Ça sautait partout dans le crowd. Fait que j'ai l'impression que ça va être la même affaire.
Mais nous autres, on est allés à Québec hier, justement. Il y avait un événement de MMA. Moi et Fred, on
était...
Ah,
c'est vrai? Au Nordique?
Puis la crowd était pleine. Sérieusement, la crowd était belle, man. Il y avait beaucoup de billets vendus. Puis je pense que les athlètes ont vraiment aimé ça. Les partisans ont adoré ça aussi. Fait que je te dirais que notre... Si tu veux un avant-goût, on l'a un peu eu.
On a eu un petit avant-goût, puis c'était le fun. C'est vraiment, tu sais, j'en ai parlé avec quelqu'un en plus aujourd'hui. L'ambiance là-bas, j'ai vraiment trouvé ça nice. Tu sais, c'était vraiment... tu vois qu'on dirait... On dirait que ça redonnait un petit throwback d'avant, là, tu sais.
C'est ça qu'il faut. Est-ce que vous avez écouté les combats?
Des OGs hier.
Hein?
On a rencontré Yoni. On a rencontré... Qui d'autre? Un nasty de OG, Fred.
Toi, tu parles de... Aïe, aïe, aïe.
J'ai
Le gars Clavo.
Le Québécois qui existe. Quand
Clavo.
Clavo. On a rencontré Clavo
le
hier.
Snake. Let's go.
Ouais, il y avait du monde. Puis justement, le monde était là pour l'amour du sport et tout. Le monde était là pour crier. Le monde était là pour vivre un peu, pour revivre un peu. Je pense que le monde a trippé, puis un événement pro, je me dis que ça va juste être 10 fois plus nice. Fait qu'on va avoir du fun.
Yep, ça va être fou, man. Ça va être malade. Fait que manquez pas ça. Si vous n'avez pas vos billets, je sais pas ce que vous collez, parce que d'après moi, il en reste presque plus. Fait que, genre, faites vite, le trouver un
esprit dans votre crise, région. Vrai, ça va vraiment, ça, vraiment vite.
Puis achetez ça aux fighters, tout s'il te plaît. Code de billets, c'est important, man. Faut que le monde, faut que les fighters se payent, faut que tout le monde se paye. Fait que trouvez un fighter, peu importe où vous habitez, man. Vous allez trouver quelqu'un, achetez des billets. Faites-vous du fun. Venez à voir à Samouraï. Sinon, vous écouterez ma tête de con à la TV, mais genre, honnêtement, j'aimerais mieux vous voir là-bas que d'autres choses.
Parle-moi de ça, Faber. C'est présenté en live, right?
C'est présenté live à Fight Network. Oh. Ainsi que sur l'application Fight TV, là, F-I-T-E TV.
Ouais.
Fait que ça, c'est live là-dessus. Ça va être par la suite en rediffusion à RDS, comme TKO. Tu sais, TKO, il y avait comme une heure une fois de temps en temps, puis là, il montrait des combats, genre.
Très, très nice.
Fait que ça va être la même affaire.
C'est ça que j'aurais mis sa voix.
La seule différence qu'il va avoir avec TKO, c'est que, tu sais, TKO, c'était Stéphane qui était là en studio, puis il commentait les combats de TKO, mais après le fait, fait que des fois, il spoilait un peu la fin, là, sans faire exprès, parce qu'il connaissait la fin. Là, Samouraï ont vraiment engagé des commentateurs francophones pour être là.
Lévi Labrie,
Yves Lavigne, l'arbitre. Wow. Benoît Baudouin de RDS.
Wow.
Fait que ça va vraiment être cool. Fait que quand vous allez écouter à RDS, ça va être ces gens-là qui vont commenter. Puis vous allez vraiment avoir les commentaires en live. Fait que même si vous savez à la fin du combat, vous allez avoir l'excitation du combat quand même. Contrairement à de la manière qu'ils présentaient ça à RDS, qu'il n'y avait comme pas l'excitation du combat, ben j'ai l'impression que tout le monde savait déjà à la fin, même les deux qui commentaient.
Ouais.
Fait que... Je voulais savoir, les boys, qu'est-ce que...
La décision, puis il était comme, je pense que c'est lui qui va gagner. En tout cas, moi, je l'ai dit comme ça.
Là, t'es genre, ben oui, mon Stéphane, ben oui. Est-ce que vous avez... Même si vous ne l'avez pas écouté, je veux savoir ce que vous avez pensé de la saga Paulo-Vigno-Costa cette semaine. Là.
Ouais, j'ai trouvé ça vraiment un manque de professionnalisme à un level trop... Sérieux, c'était pas professionnel à zéro. Zéro. C'est une barre.
C'était hard, hein? C'était genre...
Non, mais tu sais, le gars, il show up même pas en weight, puis après, il essaie de te manager, tu sais, il essaie de jouer un peu de « Ah, ben moi, je ferais pas le poids. »
Ah, puis j'ai une excuse, mais vous allez l'entendre après le combat. Mais j'ai pas envie de vous la dire parce que là, vous allez dire que c'est une excuse, mais vous allez comprendre quand même. Finalement, je suis blessé au biceps, je pouvais pas faire le poids, genre. Ah, oui. Qu'est-ce que tu fais, Big?
Ouais. Non, c'était dégueulasse. Après, il a comme fait « Oh, it's not an excuse, but... » Mais c'est comme le « mais ». Le « mais », je suis pas raciste, mais... Tu sais, ils ont fait ça, genre.
Ouais, quand tu commences avec c'est pas une excuse, mais tu t'en vas entendre une excuse.
Ah, oui. Puis tu sais, c'est con à dire, là, mais Paulo Costa, il fallait qu'il rentre avec un statement s'il si voulait rester dans le game. Puis là, il a manqué sa shot. Là. Il a vraiment tout. Tu sais, de A à Z, il a tout manqué. Là,
ouais.
C'est dégueulasse. Pour le combat, il a pas si mal fait. Je pense que c'est sa plus grande réussite, même s'il a perdu, tu sais. Comme il a été là.
Il était là, mais il a voulu gagner, tu sais. Il a juste fait... Il était là.
Tout le monde
quand tu as écouté le combat, Fred?
Non, j'ai écouté hier, ouais. Okay. C'était un matin, excuse. J'ai celui de bonheur.
Richard m'en a parlé tantôt. Je suis allé m'entraîner, comme on disait tantôt. Puis Richard m'a dit... Il pense que Paulo Costa faisait semblant d'être brûlé. Tu sais, nous autres, on a vu les deux premiers rounds à Québec. Puis on disait, calice, il a bien l'air gazard déjà. C'est bien, tu sais, il est bien pas là. Ouais. Ça a l'air qu'il est sorti fort en tabarouette vers la fin. Puis là, Richard,
au cinquième, ouais.
Exprès. Mais tu sais,
ouais. Moi, c'est vrai, par exemple.
Il fait exprès d'avoir l'air d'un brûlé, là. J'ai l'impression que c'est plus un second souffle qui a pogné. Puis qu'il s'est dit, Chris, il faut que je gagne le cinquième round parce que sinon, je suis out, là. J'ai perdu.
Mais je pense que le gros, honnêtement, c'est la combinaison de tout ça. Puis Marvin Vettori qui a fait le calcul scientifique de « No way que j'ai pas gagné trois de ces quatre premiers rounds-là ». Fait que t'en as un qui est arrivé puis il a donné « all-in » au cinquième pendant que l'autre qui a fait « Ouais, ben je vais essayer de pas me faire finir, mais pas vraiment à plus, genre.
Ouais. »
Je pense que c'est peut-être ça qui a donné le cinquième round où Costa, oui, il a bien paru dans le cinquième round. Au deuxième et tout, mais il a trouvé le moyen de perdre des points à cause de... Un high poke, man. Shout out au high poke. Deux crises de beau high poke. Yeah, man. Dwight Grant, le gros avant, là, il s'est fait arracher l'œil complètement par Trinaldo, mon gars. Et il continue le combat. Là, à la fin, genre, il me semble dans ma tête que c'était clair qu'il avait gagné deux des trois rondes. Finalement, il a perdu à split decision, man. C'était bâtard que le Saint-Tabarnak.
Mais. Pour revenir à Costa, on parle de Costa qui n'a pas été professionnel, de Costa que si, de Costa que ça, mais Vettori a été professionnel. Comme Dana White a dit, là, Vettori a été professionnel en tabarnak.
Ouais.
Ah, OK, OK, c'est bon, ça ne me dérange pas 195 livres. OK, c'est bon, ça ne me dérange pas 205. Il arrive, il show up, il se bat bien, il sort un beau combat. Tu sais, Vettori a été top.
Mais il a gagné des fans, là. Genre, il a littéralement le gars le plus détestable dans l'UFC, puis il a gagné des fans cette semaine-là. Parce que l'autre, il a tellement fuck up que le monde était là. Chris, je le respecte, l'autre, man. Il est pissed off, mais il est toujours pissed off. Fait que ça change rien. Puis lui, au moins, il a fait les affaires comme faut, tu sais.
Oui. Tu sais, Vettori a bien fait. Puis j'ai mis son commentaire d'après combat sur le. Il a traité de punk ou je sais pas quoi, d'avoir fait tout ce qu'il a fait. Vettori, autant détestable il peut être. Il show up. Puis shout out à Oli et tout, Oli Aubin. Sa prédiction à 360, je pense. Puis Fred, je te lève pas mon chapeau parce que toi, t'as tout perdu.
Oli, ouais, c'était quoi déjà? C'était genre pas Vettori.
Il y avait pas Trinaldo.
Fedor,
Trinaldo, puis Vettori.
Ouais.
Il était à plus 575, puis à cause de lui et sa prédiction, il montait à plus 600 cucs. Fait que Oli, il a peut-être fait faire de l'argent à une couple de personnes. Félicitations.
Hey, félicitations, ça va rembourser pour les semaines qui en a fait perdre. Parce que moi, c'était 2-3 semaines. Greg, là, c'est le genre de petit gars qui. Il est genre, ah, ben, j'ai prédit telle affaire, je suis là, pourquoi? Ah, ben, c'était la prédiction de Georges Saint-Pierre, là. Fait que je l'ai écouté, genre. Je suis en big Georges, c'est pas parce que c'est un bon combat qui s'est prédit des fights, là. C'est le genre de gars qui dit de prendre de pour André Arlovski contre Thomas Pénal, là.
Faber, faut que je te dise de quoi.
Quoi?
Mahomes a l'air commotionné, ben raide.
Ouais, je sais, tout le monde m'écrit, tout le monde est genre gros. Mon chum Seb Manny vient de me dire fait que Pat Mahomes et Russell Wilson devraient co-animer un podcast sur l'art d'avoir aucune protection.
Oh, ouais, hein. Puis d'être un bon QB malgré tout.
Ouais, gros, c'est gros. Imagine si Mahomes est plus là, c'est le seul gars qui essaie de gagner dans cette équipe-là. C'est genre,
la mère à Mahomes qui va dire les interceptions quand c'est le receveur qui drop la balle des mains de l'autre, ça devrait pas être au QB, ça devrait être au receveur.
Hey, Pat Mahomes, là, qu'est-ce qui devrait arriver avec lui? Toute sa calisse de famille là, devrait farmer le rostidia.
Ouais, c'est vrai.
C'est son calisse de frère qui est là à faire des danses TikTok partout, man, à se pogner contre les partisans de l'autre équipe. Tout. Sa calisse de blonde ou sa femme qui est toujours en train de filmer son innocent frère qui fait des TikTok. Là, t'as sa mère qui se prononce sur les interceptions devraient aller à la fiche de qui? Genre, man. Fermez donc toutes vos gueules, les Mahomes. C'est pas vous autres qui jouez, là. Laissez-lui jouer, là. C'est lui qui rapporte l'argent dans la famille, là. Vous autres, fermez vos gueules. Mais non, mais sacrément, man. Il y a pas, genre, Pat Mahomes, il est tellement nice, il fait tout comme faux. C'est un bon joueur de foot. Pas de controverse.
Meilleur QB au monde.
Oh, ouais, 100%, c'est mon joueur préféré. C'est pour ça que je prends pour les Chiefs. Mais gros, toute sa famille, man, il rentre, genre... L'affaire gossante que t'es genre big, toi t'es nice, mais pourquoi tous ces attardés-là sont autour de toi à dire des choses, genre?
Il y a deux raisons pourquoi les gens prennent pour les Chiefs. C'est soit Mahomes.
C'est comme si Alain venait sur mon podcast, man, péter la coche après Patrick, genre. Parce que c'est Jourdain qui a signé dans l'UFC.
Faudrait que tu l'invites, mais.
Mais non, je le ferai pas.
Faudrait que tes avocats signent des affaires que tu peux pas release, ce que mon père veut. Je veux pas que tu releases.
Non, moi je veux pas, je ferai pas venir ton père ici, man. J'aime ça, je garde les conversations avec Alain pour les fois que je le vois, man. C'est mes moments privés à moi. Le monde, ils n'ont pas le droit de tout voir. Ça, c'est du behind the scenes, man. Ils n'ont pas accès à ça.
Mon père, c'est un goat.
Ouais, c'est vrai que c'est un goat, ton père.
Ah, c'est une légende, man. Une fucking légende, Johannes. Mais avez-vous vu Fedor ou vous étiez trop à Québec?
Est-ce qu'on a vu quoi?
Fedor.
J'ai vu le highlight du knockout, là, that's it.
Ben, ça savait même pas c'était contre qui se battait. C'est quoi, Tim Johnson, son nom?
Gros, arrêtez, c'est le deuxième plus grand combattant heavyweight de tous les temps, Tim Johnson. C'est mon nouveau gag, ça. Moi, j'ai ma propre liste heavyweight, là. Puis genre, j'ai décidé que c'était ça, la liste heavyweight, man. Puis je m'en crisse, là. C'est genre Derek Lewis, Tim Johnson, Jared Rosholt. Man, les big...
Hey, c'est quoi son nom, l'homme fort, Podjanowski?
Podjanowski, ouais, lui, est clairement ouais. Là.
Gros heavyweight.
Il y a Corey Anderson à 36 ans. Clairement, un heavyweight goat, ça, Corey Anderson à 36 ans, man. Puis, il se bat pas encore là, mais il va faire comme tous les light heavyweight. Puis il va finir par cette année puis aller se battre contre...
Bellator vont y offrir un combat heavyweight contre Fedor bientôt. Là.
Gros, d'ailleurs, hier, là, Bellator, man, c'est une soirée où le MMA a tué mes espoirs, man. J'avais un esti beau parlay, mon gars. Un parlay tout russe, là, le gros. Là. J'avais bête sur toutes les Russes, man, au Bellator. Parce que je savais que c'est un Bellator Russie puis il allait matcher les Russes pour qu'ils gagnent, man. Puis le dernier combat de mon parlay, gros, c'est Vitaly Minakov contre Saïd Salma, peu importe c'est qui c'est ce type d'autre-là. Puis là, Minakov, il bat parce que c'est Minakov, puis il est fucking bon. Puis un moment donné, nowhere au troisième round, il lance un punch que le gars évite. Puis je me rappelle plus où ça frappe, mon gars, ça le fucked up son doigt. Là, il est là, essayer de replacer son doigt que ça le ref le voit. Le ref se pointe, check son doigt, il est genre « Holy shit, fuck that, call the fight, le dos du père par TKO injury à cause de son doigt. » Puis il pète mon parlay, man.
Ouais, mais un parlay à 2$, c'est pas payant, Faber.
Big, je fais gagner 3$ et quelques. Sache que le gros, man, je suis genre des profits, man. 25-30$ de profit à date, là, avec mes
stratégies. Imagine si tu mettais des 100$ au lieu de des 2$, tu serais peut-être à 2000.
C'est quoi, man? Je vais continuer d'imaginer ça puis juste jamais le faire parce que le jour que je vais perdre 100$ sur genre un combat de MMA, le gros, je vais probablement aller me crisser en bas du petit pont là, sur ma rue qui mène au ruisseau. Là.
Non, on va faire ça avec à celui du casino, là. Au moins, ils vont associer ça au gambling. Tu vas rentrer dans les stats.
E.T., il veut qu'on entrevue à Alain, man.
On veut Alain.
Ça le fera pas, mon Eric, ça le fera pas, man. Alain, il faut garder tout ce qui... C'est parce que c'est tellement une mine de connaissances et de savoir que tu peux pas laisser aller ça en public, là. Faut que tu gardes toutes les choses sages que Alain te dit, puis que t'es mettre dans toi, là, puis t'es utilises quand tu fais de la méditation, puis tout, pour devenir un plus grand homme.
J'ai 27 ans d'Alain, moi, dans le corps.
Yep, ça se passe, man.
C'est beaucoup de méditation.
Sinon, man, y a-t-il autre chose? Je voulais pas vous parler de rien d'autre, man. Je vais vous laisser aller, les boys. Je suis bien content de vous avoir eu. Vous êtes cool, vous êtes nice. On est content. On a hâte que vous battiez. Fred, je pense. Fred, ça sera pas beau ton fight, là. Après, de la manière que tu me parles aujourd'hui, là. Manquez pas. Gros, allez pas, genre. Dites-vous pas, Dupras se bat dans pas long, je vais aller m'acheter de quoi à bouffer. Genre, restez là, man. Vous allez avoir le temps après, là. D'après moi, ils vont laisser un petit 5 minutes après son combat pour faire vos affaires parce que je pense pas que ça va être beau. Puis Mick, ben, gros main event pour la build. Probablement une des dernières chances est-ce que vous avez de le voir ici. Le Mick, il continue à péter des doutes de même qui reviennent du UFC. À un moment donné, il ne pourra pas le garder bien ben longtemps, là, le petit chummy. Fait que manquez pas ça, man. Manquez pas ça. Puis merci, les boys.
Merci à toi, Faber.
Il n'y a pas de trouble.
Merci à toi, Fabrice. Toujours un plaisir.
Double Marvin Vittori, italien.
Hey, c'est mon nouvel emoji préféré en plus.
Moi, je l'utilise tout le temps, man.
Comment? Chris, c'est bien dur à gager cette petite caméra-là.
Oui, je sais parce que t'as genre ça de l'âge.
Oh, yeah. Bref.
Yep.
Okay, bon, moi, je viens de comprendre comment ça marchait le chat en dessous. Ouais.
Ouais, bon, ben, that's it. Fait que vous pouvez y aller. Moi, je vais faire un petit recap du UFC et du
tout right.
Le monde. Mais merci, ben, gros, les boys.
Ciao, right. Ciao, Faber.
Ciao, ciao. Boom. Fait que c'est ça qui est ça, les petits chums. C'était Mick Dufort, Fred Dupras. Je voulais qu'on recap un peu le UFC, man, parce que c'est passé des affaires. Hein. C'est passé des affaires. C'était une des premières fois. Depuis un bon bout, qu'on avait une bonne carte avec des affaires qui veulent dire des choses. Puis, tu sais, encore une fois, c'était pas les combats les plus high level en termes de ranking, en termes de gars populaires, etc. Mais il y avait vraiment beaucoup de gens sur la carte qu'on doit s'intéresser en eux là, pour le futur, dont Grant Dawson, Rick Glenn. Je parlerai pas du main event, je pense qu'on en a assez parlé avec les gars. Je pense que Vettori a bien fait. Il a posé son pace sur Paulo Costa. Il a pris le 5e round off. Et puis, s'il n'avait pas pris le 5e round off, il aurait sûrement gagné 4 rounds à 1, mais il l'a donné. Fait qu'il a perdu tout. Il a gagné 3 rounds à 2. Super. Belle victoire. Fait que Grant Dawson dans le co-main event. Ce qui est tough, Rick Glenn, hein? Rick Glenn qui se fait take down, il se fait dominer au sol, il se fait contrôler au sol. Puis là, t'es genre, OK, ben, ça va être une bonne décision. Puis là, je m'en vais dans la douche après le round parce que j'avais une fight. Puis là, je m'en vais dans la douche. Je m'en vais dans la douche. Je sors de la douche, sur ta décision. Puis se rendu un draw. Fait que je suis là, what the fuck? Je rewind, je check le dernier round. Puis malheureusement, le chum Grant Dawson, il a un peu manqué de jus. Puis il a failli se fight, choqué. Il y a même du monde qui se demandait s'il était out quand le combat est terminé. Fait que pour cette raison-là, Rick Glenn a un 18 avec lequel je suis bien d'accord. Fait que c'est un draw pour, dans ce combat-là pour Grant Dawson qui demeure invaincu dans l'UFC quand même, mais premier combat qu'il ne gagne pas dans l'UFC depuis qu'il est arrivé, c'est son 6e combat maintenant. Glenn, encore une fois, fait juste nous montrer que Big, ce gars-là, il est quasiment pas finissable, puis il faut que tu le battes du début à la fin du combat parce que lui, il n'arrêtera jamais. Et puis, c'est ça qui fait que c'est un fighter à surveiller. Un journeyman, oui. Meilleur fighter à surveiller dans la division. Là, un gars qui va pouvoir infliger des défaites bizarres à du monde que tu t'entendais pas. Donc, Jessica Rose Clark, c'était plate en mort contre Justin Edwards à l'out-wrestle, mais elle a rien fait avec son combo. Celle-là, elle a vraiment juste lay and pray on top. C'était plate, j'ai rien à dire. Alex Caceres, Sung Woo Choi. Gros combat. Beaucoup d'action fight, tu sais, back and forth, qui ont packé beaucoup de living dans un court combat. Ça, c'en est un. On a Alex Caceres qui a mal commencé le combat. S'est fait dropper par Sung Woo Choi. Ça allait pas bien jusqu'au moment où Sung Woo Choi a décidé de faire un Peter Yan de lui-même. Il a collé un coup de genou dans la tête. Il a perdu un point. Après ça, le combat a recommencé. Choi a gagné le round, mais vu qu'il a perdu un point, c'est clairement un 9-9. Mais tu disais, tu sais, Choi clairement en avance dans ce combat-là. Puis deuxième ronde, Caceres a fait porter l'ajustement, a essayé plus de grappling, il a réussi à prendre son dos debout et puis a finalement passé le choke. Une manœuvre très, très slick. Il est très fort, Alex Caceres. Puis je pense qu'il a 4-5 victoires consécutives, ce qui est sick de voir, Chris, Alex Caceres qui essaye de faire des choses. Alex Caceres qui arrête de... Tu sais, sa gimmick, c'est un peu « Je suis là, je suis très bon, je sais tout faire, mais j'ai aucun, je m'en vais pas nulle part avec ça, je suis là puis j'échange des techniques. » Là, il a l'air de s'en aller quelque part avec sa game. Puis crème, il gagne des combats puis contre des très, très bons combattants en plus de ça. Fait que gros shout-out à Bruce Leroy, un fighter que j'adore. Ensuite, Francisco Trinaldo, Dwight Grant, ça, c'était un peu le « What the fuck of the night ». Dans ma tête, Grant avait gagné les deux premiers rounds. Le premier, assez aisément. Le deuxième, un peu moins. C'était serré. Je peux comprendre que ça a l'air d'un côté comme de l'autre. Mais bref, je pense que Grant avait gagné ce round-là. Le troisième round, c'est clairement Francisco qui l'a gagné. Cependant, il a donné un méchant high-poke, là, comme j'ai dit plus tôt quand les deux gars étaient là, à Dwight Grant, ce qui a fait qu'il a perdu un point. Et puis, ça donnait dans ma tête un 9-9 dans ce round-là, ce qui donnait un 29-27 en faveur de Dwight Grant. Puis on a eu la split decision de 29-27. Écoute, deux 29-27 en faveur de Trinaldo et puis un en faveur de Dwight Grant. Donc, Trinaldo qui gagne somehow la split decision pour faire cacher le bet à Holly Aubin. Fait que let's go, mes dégénérés du gambling. On est bien content pour vous. Mais c'était whack un peu comme décision. Dans ma tête, pas pour rien que je vais genre tout casser à l'entour, mais c'était un peu whack comme décision. Ensuite, Nicolai Negumereanu. Drôle de nom. Il a battu Isaac Villanueva avec du ground and pound un peu en arrière de la tête vers la fin, mais j'ai l'impression que le dommage qu'il a mené au finish était déjà fait au moment des 2-3 punches en arrière de la tête. Donc, je pense pas qu'il fallait que ça impacte le combat. Et c'est juste avant ça qu'on a vraiment eu, selon moi, les meilleurs moments de la soirée. Jung Yun Park, Gregory Rodriguez. Au premier round, 100% en faveur de Rodriguez. Il a landé les meilleurs punches. Il a out-grapple son adversaire. Il a pris son dos. Il a eu des longs moments dans son dos. Puis là, tu te dis, hey, ça va être dur pour Iron Turtle dans ce combat-là. Mais Iron Turtle, il n'arrête jamais d'essayer. Puis tu as vu que vraiment, au deuxième round, il est sorti fort. Il landait du volume sur Rodriguez. Puis tu voyais que c'était dur pour Rodriguez sur son gas tank. De plus en plus, le combat semblait complètement avoir changé de côté. Puis Jung Yun Park, à certains moments, semblait même proche d'un finish. Il semblait proche de vraiment pousser Red Rodriguez à sa limite puis de lui passer un TKO debout à cause de son volume puis à cause du fait que son adversaire était vraiment épuisé. Mais je ne sais pas d'où Rodriguez a sorti ce qui est sorti, mais un moment donné, en plein milieu d'un échange, il a juste dit qu'il était tanné. Puis il a gelé le Iron Turtle assez solidement, assez même pour le faire reculer là, de bord en bord de la cage. C'était une situation où Rodriguez a frappé son adversaire, il avait le dos contre la cage. Et puis Iron Turtle a reculé jusqu'à l'autre bord de l'octogone pour lui finir le dos contre la cage. Rodriguez l'a suivi, il est allé avec un flurry de punch qui a knocké son adversaire debout contre la cage. Il a fallu que l'arbitre arrête le combat puis se mette un peu en clinch contre Iron Turtle pour pas qu'il tombe au sol après s'être fait knocker debout. Gros finish pour Grégory Rodriguez, qui est un gars que, comme dans le preview de Bloody Elbow disait que j'écoutais, c'est un peu un genre de Jacare Souza si Jacare Souza avait commencé la boxe bien avant, genre 5-6 ans avant. Tu sais, oh, j'ai gossé avec ma caméra, hein? Mais bref, c'est genre gros fighter explosif qui fait peur quand il te stalk, qui va de l'avant puis qui te stalk. Puis vraiment, là, un combattant qui fait peur en général. Puis qui a de la bonne boxe, qui a une bonne technique, comme on a dit, fait, qui est capable de se défendre debout. Puis au sol, on l'a vu, son sol est vraiment excellent, super contrôlant, un gars qui n'a pas peur de lockdown ses positions puis de chercher des soumissions un coup que ses positions sont lockdown. Donc, j'ai hâte de voir c'est quoi le futur là, pour Robocop, Grégory Rodriguez, gros fighter. Puis avant ça, Mason Jones, David Onama. Mason Jones, rapidement, là, en train de monter dans ma liste de mes combattants préférés. Ce gars-là n'a aucune considération pour sa propre santé. Ça en est dégueulasse. Le pauvre dude, littéralement, même de se mettre genre devant tout ce dommage-là, parce que le gars, il fait juste rentrer dans la pocket, puis il lance du volume, puis sa défense, c'est son chin. Là. Il a un chin absolument incroyable, mais sa défense, c'est son chin, assez que s'est fait taguer sévèrement au deuxième round, puis il a décidé, ah non, fuck that, il faut que je switch mon game plan, puis que j'out-wrestle David Onama, qui était vraiment très, très, très puissant, qui a sorti une incroyable performance pour un début short notice dans l'UFC, puis qui est aussi un 145 livres, fait que le fait qu'il réussisse à faire mal à un des 155 livres avec le meilleur mental, d'après moi, ça va être une menace à 145 livres. Fait, gros props à David Onama pour son début. Shout out à Mason Jones pour la belle victoire. Finalement, un win dans l'UFC après plein de circonstances bizarres, genre un no contest weird contre Alan Patrick, une défaite aux allures de victoire contre Mike Davis. Fait que, finalement, il l'a eu. Sinon, Randall Marcos a eu une très belle performance. La Canadienne a peut-être perdu le premier round parce qu'elle s'est retrouvée dans une submission attempt assez close au sol, mais sinon, des bons coups de coude dans le clinch, très contrôlante, très dominante dans le clinch, autant avec ses strikes qu'avec son grappling. Ça a amené à des takedowns, ça a amené à du top control, puis vraiment, les deux derniers rounds, elle s'est complètement sauvée avec le combat, battu Lavinia Souza pour mettre fin à sa séquence de victoire, puis ramener sa fiche à 500. T'es rendu avec une fiche en bas de 500. C'est vrai qu'elle s'est battue contre toutes les meilleures au monde dans la division, mais quand même, t'aimes pas ça être une fighter pro dans l'UFC et d'avoir une fiche de genre 10 victoires, 11 défaites. Là, ça paraît pas super bien. Fait, au moins, elle a réussi à ramener ça à 500. Très belle victoire. Et puis finalement, ben, c'était juste après, mais Jeff Molina à 125 livres. Surveillez ce dude-là. C'est en est tout un. Un peu un slow start contre Daniel Da Silva. S'est fait beaucoup kicker at range. A été victime d'une coupe de submission attempt. Encore, c'est un gars super dangereux sur son dos. Mais vraiment, Jeff Molina a été en mesure de reprendre contrôle du combat et d'y aller d'un violent TKO. Fait que c'est ça que j'avais à dire rapidement. Dernier sujet, Charles Jourdain, un combat annoncé cette semaine. C'est au mois de décembre contre le chum André Ewell. Pourquoi j'ai oublié? André Ewell fait le saut à 145 livres, se battre contre Charles Jourdain. C'est à Vegas. La seule affaire qui me gosse, honnêtement, là, c'est qu'on a une nouvelle règle qui est sortie cette semaine par rapport aux fighters internationaux qui vont devoir être complètement vaccinés pour rentrer aux États-Unis à partir du 8 novembre. Ça va évidemment affecter tous les fighters internationaux qui veulent aller se battre aux États-Unis. Puis comme on sait, Charles n'est pas vacciné. Charles ne se fera pas vacciner. Là, il essaie de voir s'il n'y a pas d'autres façons. S'il rentre par voie terrestre au lieu d'y aller en avion, est-ce que ça va marcher? Honnêtement, je ne sais pas s'il y a une issue vraiment là, ici, puis je ne sais pas si Charles va plier et aller se faire fully vaccinate avant le 18 décembre. Il y a du temps, je ne compterais vraiment pas là-dessus. Fait que, tu sais, à suivre, oui, Charles a un combat d'annoncer, mais est-ce que Charles va réussir à se rendre à son combat ou ça va être repoussé puis remis plus tard sur Fight Island comme Dana dit qu'il veut aller faire? Parce que l'UFC a bel et bien mentionné qu'il n'allait pas imposer là, la vaccination à leur... À leurs combattants, puis que les combattants internationaux qui ne veulent pas se faire vacciner allaient probablement se battre sur Fight Island là, dans l'avenir plus rapproché. Fait qu'à suivre, est-ce que Charles va se battre le 18 aux États-Unis? Est-ce qu'il va réussir à y aller malgré le fait qu'il n'est pas vacciné? Est-ce que ça va devoir aller plus tard sur Fight Island ou whatever? À suivre, c'est une soirée en développement. Mais c'est la dernière petite affaire duquel je voulais vous parler. Je vous remercie d'avoir été là pour un Hypoke Podcast qui est un peu plus tard cette semaine, mais pour une bonne raison, on avait Mick Dufort, Fred Duprat. Un gros shout-out à Greg qui avait des affaires familiales, mettons, là, avec rien de grave, là, faites-vous-en pas. Il y avait juste de quoi d'ordre familial qu'il devait absolument faire aujourd'hui, qui faisait qu'il n'était pas disponible pour le podcast. Fait un salut au chum Greg, puis on va être là la semaine prochaine, comme d'habitude. Fait que je remercie tout le monde d'avoir été là. Ce fut le Hypoke Podcast. Et puis, ben, manquez pas le MMA Talk Show mardi. Alex Morgan, mon invité. Ciao! Je crée mon doigt dans l'œil. C'est le Hypoke Podcast.